Excusez-moi. Mais je recommence. Permettez-moi de résumer le début de l'histoire et de situer le contexte historique. Jésus est considéré comme un fauteur de troubles par l'establishment religieux de Jérusalem, le Sanhédrin. Le Sanhédrin est l'assemblée législative du peuple d'Israël où sont traitées les affaires politiques, religieuses et civiles du peuple juif. Et c'est aussi une cour de justice. Lorsque les Romains s'emparent de la Palestine, 63 avant Jésus-Christ, ils laissent subsister le Sanhédrin. Celui-ci conserve la police du temple. Il peut ordonner des arrestations et juger des cas ne requérant pas la peine de mort. Les affaires où le prévenu encourt la peine de mort relèvent de la juridiction romaine et en fait, apparemment, de la toute-puissance du gouverneur. On imagine assez bien une discussion qui aurait pu avoir lieu entre les membres de cette haute assemblée. Pensez-vous, mon bon monsieur, voici quelqu'un qui se permet de tenir aucun compte des plus élémentaires règles de bienséance et de pureté, qui fréquente les malades et les personnes de mauvaise vie au prétexte que ce sont elles qui ont le plus besoin d'entendre des messages d'amour et de pardon. Et puis d'autres, voici quelqu'un qui veut réformer la pratique religieuse en affirmant que Dieu nous aime tel que nous sommes, et non en fonction de l'observance plus ou moins scrupuleuse des règles de la loi. Il a beau dire qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais c'est bien ça dont il s'agit. Et puis d'autres encore, et alors, qu'est-ce qu'on devient, nous les grands prêtres, nous le Sanhédrin, nous le pouvoir en place? Alors le Sanhédrin n'a plus qu'une chose en tête, éliminer Jésus. Comment va-t-il s'y prendre? D'abord, il doit tenir compte de la répartition des pouvoirs entre le Sanhédrin et le pouvoir romain. Il faut présenter Jésus au gouverneur puisqu'il s'agit de le mettre à mort. Ensuite, il faut invoquer un motif recevable et prendre une bonne posture, avoir des arguments. En bref, le Sanhédrin dit « Cet individu se prétend le roi des Juifs, alors que nous, les bien-pensants, nous disons que César est le seul roi de Judée. » Alors, Jésus comparaît devant Pilate. Es-tu le roi des Juifs ? Demande Pilate. Après quelques détours, vient la réponse de Jésus. Je suis roi. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. En quoi cela est-il important ? Est-ce là une nouvelle définition de la royauté, selon laquelle le roi serait désormais celui qui est perçu par le monde comme parlant en vérité. Pilate reste sans voix et ne sait que poser une question qui reste sans réponse. Qu'est-ce que la vérité ? Et vous, qu'en dites-vous? La vérité, telle que les hommes la présentent, ne peut être que partielle, sinon partiale. Et parce qu'elle est partielle, elle est contestable. Pourtant, nous la revêtons d'absolu. Et c'est là le problème. Jésus a été entraîné devant le Sanhédrin, qui va le condamner à être tué, au nom de sa vérité. La vérité du Sanhédrin consiste à constater que Jésus a blasphémé en s'attaquant au temple, puisqu'il veut renier ses prérogatives. Qui s'attaque au temple s'attaque à Dieu. Qui s'attaque à Dieu mérite la mort. Et c'est au nom de ce syllogisme très simple que l'on amène Jésus devant Pilate. Alors tout ça ennuie profondément le gouverneur. Il n'en a rien à faire, lui, du Sanhédrin et de la vérité du Sanhédrin. Il ne la reconnaît pas. Il ne connaît que la sienne. La sienne, c'est la vérité de la paix romaine. Quiconque trouble la paix publique s'en prend à l'État romain. Quiconque s'en prend à l'État romain offense l'empereur. Quiconque offense l'empereur mérite la mort. Voilà, c'est simple, un autre syllogisme. Et voilà donc deux vérités partielles, tout à fait différentes l'une de l'autre, mais dont la transgression amène la même conclusion, la mort. Et il n'y a rien de plus absolu que la mort. Voilà ce qui donne à ces deux vérités une apparence d'absolu. Mais aucune d'entre elles ne peut être absolue puisqu'elles s'opposent. Si ce n'est un point commun, la conclusion, la mort. Alors, que disent les Juifs pour convaincre Pilate de leur bon droit ? Nous n'avons de roi que l'empereur. Les menteurs. Ils détestent César. Ils nourrissent une haine implacable contre lui. Et ils mentent pour donner des arguments à leur vérité. Ils biaisent, car ils n'ont que faire des prétendues visées de Jésus à être roi d'Israël. Cette prétention ne les intéresse pas. Mais elle leur donne des arguments contre Jésus à présenter à Pilate en se faisant passer comme plus romain que lui. Alors Pilate est bien embarrassé. Il ne trouve aucun motif de condamnation dans les arguments des Juifs. Gouverneur de Judée, c'est un poste bien peu prestigieux dans l'Empire romain. Peut-être même que c'est son premier poste. Et il se demande qui des deux partis en présence a le plus grand pouvoir de nuisance sur sa carrière. Il se dit que cette assemblée de notables locaux serait peut-être bien capable d'écrire à Rome pour se plaindre, mais qu'il n'y a pas grand-chose à craindre de ce Jésus qui paraît plutôt inoffensif. Il a mauvaise conscience aussi, car les paroles de Jésus l'ont ébranlé. En résumé, la vie de Jésus, c'est le respect du droit romain. La mort de Jésus, c'est la solution de facilité. Et puis on voit que les rôles sont un peu inversés quand même. En principe, Jésus est l'accusé qui répond à son juge. Et en fait, c'est Jésus qui mène le débat. Il interroge Pilate, qui, assez étonnamment, se laisse questionner. Pilate répond, et il se laisse séduire. À la fin, la mort semble emporter, mais elle ne détruit pas la vérité de Dieu, puisque Jésus ressuscitera. Par contre, elle détruit la vérité des Juifs et celle de Pilate. Il faut maintenant s'interroger sur la nature de cette vérité que la mort ne peut anéantir mais que la mort révèle. Qu'est-ce que la vérité? En posant cette question, j'ai l'impression de me tendre un piège à moi-même, car vous allez attendre une réponse. Et c'est un peu comme si j'entendais le tentateur me susurrer à l'oreille « Vas-y, prédicateur, c'est à toi maintenant de leur dire ta vérité sur Dieu. Vas-y, ils sont là pour t'écouter. » Des personnages illustres et prestigieux se sont déjà laissés prendre à ce piège. Je pourrais être tenté de vous dire la vérité des églises de la Réforme. La vérité qui est en principe venue des réformateurs. Cette vérité a donné tort à la vérité de la puissante Église romaine et a défié son caractère absolu. Cette vérité a mené à la mort Michel Servet, brûlé vif à Genève le 27 octobre 1553, parce que son opinion sur la Trinité n'était pas celle de Calvin. Cette vérité a inquiété les anabaptistes et les a exilés hors d'Allemagne. Il y a aussi la vérité dont l'Inquisition a fait la promotion. Vérité qui a brûlé les sorcières à Salem et bien ailleurs. Vérité qui impose aux autres un visage de Dieu déformé par le bon droit des uns, par les prétentions des autres, par la clairvoyance des plus sages et par la cupidité des masses. Il y a encore la vérité de ceux qui, encore de nos jours, punissent le blasphème de mort et qui considèrent qu'une caricature peut être blasphématoire. Il y a la vérité des chiites, il y a la vérité des sunnites. Aucune vérité, aussi noble soit-elle, ne saurait prétendre à l'absolu, car elle repose sur la sagesse humaine à propos de Dieu. Elle n'est pas vérité de Dieu, car elle reste humaine, et ne saurait résister à la mort qui reste un mystère. Nous ne devons ou ne pouvons pas approcher la vérité de Dieu, ou alors avec prudence, car elle est propriété de Dieu. S'il nous est donné en ce monde de l'approcher, il ne nous est pas donné de la posséder, et encore moins de l'imposer. Elle se manifeste dans les Écritures quand celles-ci nous enseignent que les hommes peuvent s'approcher de Dieu s'ils savent considérer les autres comme des frères à l'égal d'eux-mêmes. Jésus rend témoignage à cette vérité quand il renvoie libre la femme pécheresse, comme si le péché d'adultère n'était pas plus grave qu'un autre et n'encourait d'autres sanctions que le pardon. Et si Jésus s'en est pris au temple, c'était pour dire que les hommes n'avaient pas le droit d'y enfermer Dieu, ni dans le temple, ni dans la loi, ni dans la morale. Il a laissé entendre que le seul temple de Dieu, c'était son corps, et que l'amour était le lien de la perfection. Nous approchons de la vérité quand nous réalisons que le bon droit n'existe pas, ni le droit du sol, ni le droit du sang, ni le droit d'aînesse, ni aucun droit prétendument acquis. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue parmi les hommes. La seule vérité absolue n'est qu'en Dieu. Et c'est d'elle que dépend la vie nouvelle vers laquelle nous marchons. La révélation en Jésus-Christ nous permet de dire que Dieu se montre en vérité dans la résurrection qu'il nous promet. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit et qu'il nous demande de partager comme une bonne nouvelle. Aurait-on idée d'inquiéter ceux qui pensent différemment? Pourrait-on les molester ou les persécuter? On l'a fait et on continue à le faire. La seule chose que le Christ, qui nous l'a révélée, nous demande, c'est d'aimer cette vérité que nous ne possédons pas, jusqu'à mourir à cause d'elle. Notre seule défense, si cette vérité est contestée, c'est de mourir pour elle, et non pas de faire mourir à cause d'elle. Où en sommes-nous ce dimanche à Annecy? À chacun d'y répondre. Mais il semblerait bien que cette question se soit posée la semaine dernière à Paris, quand la vérité de Daesh s'est exprimée. Bornons-nous de constater que ceux qui ont donné la mort au nom de leur vérité ont reçu la mort au nom de leur propre vérité mortifère, à l'exception d'un seul qui se cache et n'a pas été encore retrouvé. Nous vivons dans un monde où la pensée dominante nous promet le bonheur à venir grâce aux vérités qui sont le résultat de notre éducation, du matraquage des médias, et qui font de nous avant tout des consommateurs. Soyons assez sages pour les prendre comme elles sont. Elles sont le produit de la sagesse et de l'intelligence humaine. Elles ont des limites et ne portent en elles aucune valeur définitive. Il nous faut garder en mémoire que dans le monde des mortels où nous sommes, il n'y a aucune vérité absolue, même pas sur Dieu. Nous l'approchons grâce à Jésus-Christ. Nous essayons de mettre en pratique ce que nous avons compris, mais nous n'avons aucune prise sur elle. Quant à Dieu lui-même, il faudra attendre l'arrivée du royaume, le retour de Jésus et notre résurrection pour connaître la vérité de Dieu dans sa totalité. Si toutefois le sujet nous intéresse encore à ce moment-là. Amen.